Quand l'heure de la fermeture approche, Mademoiselle Saeki descend de son bureau. J'entends ses hauts talons résonner sur les marches. Je sens mes muscles se raidir à sa vue et les battements de mon cœur résonner dans mon corps. Je distingue en elle la silhouette de la fille de 15 ans. Comme un petit animal en hibernation, endormi et roulé en boule dans un creux à l'intérieur d'elle. Je la vois. Mademoiselle Saeki me demande quelque chose. Je suis incapable de répondre. Je ne comprends même pas sa question. Je l'entends naturellement. Les mots vibrent dans mes tympans, transmettent à mon cerveau un message aussitôt converti en langage. Mais les mots sont déconnectés de leur sens. Complètement décontenancé, je rougis et finis par émettre quelques syllabes incohérentes. Oshima intervient et répond à ma place. J'opine du bonnet. Mademoiselle Saeki sourit, nous dit au revoir et rentre chez elle. J'écoute le bruit du moteur de sa Golf qui quitte le parking, s'éloigne et disparaît. Oshima reste encore un peu pour m'aider à fermer la bibliothèque. « Serais-tu tombé amoureux par hasard ? » demande-t-il. « Tu m'as l'air extrêmement distrait. » Ne sachant que répondre, je me tais. Au bout d'un moment, je dis « Oshima-san, c'est un peu bizarre comme question. Mais est-ce qu'il peut arriver qu'une personne devienne un fantôme de son vivant ?» Oshima, qui était en train de ranger le dessus de son bureau, s'interrompt pour me regarder. « C'est une question très intéressante. De quel point de vue ? Littéraire ? Métaphorique, en somme ? Psychologique ? Ou est-ce une question plus terre-à-terre ? Plutôt terre-à-terre, je crois. En partant du principe que les fantômes existent réellement. » « Oui. » Oshima ôte ses lunettes, les essuie avec un mouchoir, les repose sur son nez. « On les appelle les esprits vivants. » Je ne sais pas comment cela se passe dans les autres pays, mais au Japon, ce genre de phénomène est fréquemment évoqué dans la littérature. Le Didugenji, par exemple, regorge d'esprits vivants. À l'ère Heian, ou en tout cas dans le monde mental de cette époque, les gens pouvaient se transformer dans certains cas en esprits vivants. Ils avaient alors le pouvoir de se déplacer dans l'espace et d'accomplir ce qu'ils souhaitaient. Tu as lu le Didugenji ? Je secoue la tête. Il en existe plusieurs versions en langage moderne à la bibliothèque. Je t'encourage à en lire une. Dame Rokujo no Yomizadokoro, par exemple, une des amantes du prince Genji, éprouvait une si violente jalousie envers Aoi, l'épouse officielle du prince, qu'elle se transforma en démon et prit possession de l'esprit de sa rivale. Elle l'attaquait nuit après nuit dans sa chambre et finalement, elle la tua. Dame Aoi portait l'enfant du prince Genji. Et cette nouvelle avait exacerbé la haine de Dame Rokujo. Le prince Genji fit appel à des moines bouddhistes pour l'exorciser. En vain, la volonté de cet esprit était trop forte. Il était impossible de lui résister. Mais le point le plus intéressant dans cette histoire, c'est que Dame Rokujo ne savait absolument pas qu'elle était devenue un esprit vivant. Elle faisait des cauchemars qui la réveillaient. Et elle découvrait alors, déconcertée, que ses longs cheveux noirs sentaient la fumée. C'était la fumée qui s'élevait du petit bois liturgique que les moines faisaient brûler pour délivrer Dame Aoi de l'esprit néfaste. Sans s'en rendre compte, Dame Rokujo se transportait dans l'espace, traversant le tunnel de son inconscient, pour se rendre dans la chambre de sa rivale. C'est une des scènes les plus lugubres et les plus fascinantes du Didugenji. Par la suite, Dame Rokujo apprend le crime qu'elle a commis à son insu. Et prise d'un profond remords, elle se coupe les cheveux et entre en religion. Ce qu'on nomme l'univers du surnaturel n'est autre que les ténèbres de notre propre esprit. Bien avant que Freud ou Jung fassent au XIXe siècle la lumière sur le fonctionnement de l'inconscient, les gens avaient déjà instinctivement établi une corrélation entre l'inconscient et le surnaturel. Ces deux mondes obscurs. Ce n'était pas une métaphore. D'ailleurs, si on remonte encore plus loin, ce n'était même pas une corrélation. Jusqu'à ce qu'Edison découvre la lumière électrique, la majeure partie de la planète était plongée dans un noir d'encre. Aucune frontière ne séparait l'obscurité physique, extérieure, de l'obscurité intérieure de l'âme. Elles étaient mêlées sans qu'il soit possible de les distinguer. Oshima colle ses paumes l'une contre l'autre. À l'époque où vivait Murasaki Shikibu, l'auteur du dit du Genji, les esprits vivants étaient à la fois un phénomène surnaturel et une forme naturelle de l'esprit. Il était sans doute impossible aux gens de l'époque de penser en termes différents ces deux mondes de ténèbres. Aujourd'hui, il en va autrement. Les ténèbres extérieures se sont dissipées, mais les ténèbres intérieures demeurent. Ce que nous appelons « ego » ou « conscience » est la partie émergée de l'iceberg. La partie la plus importante reste plongée dans le royaume des ténèbres. Et c'est là que gît la source des contradictions et des confusions profondes qui nous tourmentent. Autour de votre cabane de montagne, il y avait de véritables ténèbres. Exactement. Les véritables ténèbres existent encore là-bas. Je m'y rends parfois uniquement dans le but de les contempler. Je lui demande alors, est-ce toujours une émotion négative qui cause l'apparition de ces esprits vivants ? Je suis loin d'être un expert en la matière, mais à ma connaissance, il semble bien que dans la plupart des cas, ils naissent d'émotions négatives. Chez la plupart des gens, les sentiments intenses sont à la fois très individualistes et très négatifs. Et les esprits vivants apparaissent spontanément à la suite de ces émotions violentes. C'est regrettable, mais il n'existe aucun exemple de personne s'étant transformée en esprit vivant dans le but d'apporter la paix à l'humanité, ou dans un dessein rationnel. Et dans un dessein amoureux ? Oshima s'assit sur une chaise pour réfléchir. C'est une question difficile. Tout ce que je peux te dire, c'est que je n'ai jamais rencontré d'exemple concret de ce type. Il y a par exemple un récit appelé « La promesse du chrysanthème » dans « Les contes de pluie et de lune ». Tu as lu ce livre ? Non. Ueda Akinari a écrit « Contes de pluie et de lune » durant l'ère Edo. Mais il a placé l'action de ses récits un peu plus tôt, à l'époque des provinces combattantes. Ueda avait des tendances quelque peu rétro. Il avait la nostalgie du passé. C'est l'histoire de deux guerriers qui se lient d'amitié et se jurent une fidélité fraternelle. Un lien très important pour les samouraïs. Parce que être frère signifie être prêt à sacrifier sa vie pour l'autre. Les deux amis étaient chacun au service d'un seigneur différent. L'un d'eux écrivit à l'autre qu'il lui rendrait visite au moment de la floraison des chrysanthèmes, quoi qu'il advienne. L'ami répondit qu'il l'attendrait. Mais le premier se trouva pris dans un conflit de son fief et fut mis aux arrêts par son seigneur. Il ne pouvait plus ni sortir, ni même envoyer de lettres à l'extérieur. L'été s'acheva, l'automne vint, et avec lui, la saison de la floraison des chrysanthèmes. Le samouraï ne pouvait honorer sa promesse. Or, pour un samouraï, une promesse est la chose la plus importante qui soit. Son honneur compte plus que sa propre vie. Le samouraï se fit donc harakiri, et devenu un esprit, parcourut les 1000 lis qui le séparaient de la demeure de son ami. Ils parlèrent tout leur content en contemplant les chrysanthèmes. Puis, l'esprit disparut de la surface de la terre. C'est un très beau récit. Mais il a dû mourir pour devenir un esprit. Oui, il a sacrifié sa vie pour son ami, au nom de l'honneur et de l'amitié, et il est devenu esprit. Pour ce que j'en sais, ceux qui se transforment en esprit de leur vivant le font toujours pour des motivations misérables. Leurs pensées sont toujours négatives. Je réfléchis un moment à ça. Comme tu le dis, il peut y avoir des exemples de gens qui se sont transformés en esprits vivants par amour. Je n'ai pas fait de recherche détaillée sur la question, mais ça peut arriver. On dit que l'amour peut rebâtir le monde, alors tout est possible. Je lui demande, « Dites, Oshima-san, vous êtes déjà tombé amoureux ?» Il me regarde d'un air stupéfait. « Allons bon, de quoi crois-tu que je sois fait ? Je ne suis pas une méduse, ni un bâton de genévrier. Je suis un être de chair et d'os. Évidemment que je suis déjà tombé amoureux. »«
Ce n'est pas ce que je voulais dire, » dis-je en rougissant.
« Je sais bien, » répondit-il en me souriant gentiment.
Après le départ d'Oshima, je retourne dans ma chambre, allume la stéréo et mets Kafka sur le rivage sur la platine. J'abaisse l'aiguille sur le disque et j'écoute la chanson, tout en lisant les paroles sur la pochette. Tu es assis au bord du monde et moi dans un cratère éteint. Debout dans l'ombre de la porte, il y a des mots qui ont perdu leurs lettres. La lune éclaire un lézard endormi, de petits poissons tombent du ciel. Derrière la fenêtre, il y a des soldats résolus à mourir. Refrain. Kafka est au bord de la mer, assis sur un transat. Il pense au pendule qui met le monde en mouvement. Quand le cercle du cœur se referme, l'ombre du sphinx immobile se transforme en couteau qui transperce les rêves. Les doigts de la jeune noyée cherchent la pierre de l'entrée. Elle soulève le bord de sa robe d'azur et regarde Kafka sur le rivage. J'écoute ce disque 3 fois de suite. Comment une chanson avec des paroles pareilles a-t-elle pu devenir un tube vendu à des millions d'exemplaires ? Sans aller jusqu'à dire qu'elles sont totalement incompréhensibles, on peut affirmer qu'elles sont pour le moins abstraites et surréalistes. En tout cas, pas exactement le genre de paroles que tout le monde retient et se met à fredonner d'emblée. Mais quand on les a écoutées plusieurs fois, elles commencent à renvoyer un écho familier. Un à un, les mots se fraient un chemin jusqu'à mon cœur. C'est une sensation bizarre. Par-delà les mots, des images surgissent dans mon esprit comme des figures découpées au pochoir et se mettent à exister par elles-mêmes comme si j'étais plongé dans un rêve. Pour commencer, la mélodie est sublime. Simple, sans ostentation. Les paroles et la voix de Mademoiselle Saeki se fondent en une harmonie parfaite. Il lui manque la puissance vocale et la technique d'une chanteuse professionnelle, mais sa voix lave doucement ma conscience, comme une pluie de printemps les pierres d'un jardin. Elle s'accompagne au piano et quelques arrangements de cordes et de hautbois ont été ajoutés. La simplicité de ces arrangements, assez rare à l'époque, est peut-être due à une question de budget, mais elle confère à l'ensemble une fraîcheur supplémentaire. Deux accords inhabituels apparaissent lors du refrain. Les autres instruments à cordes n'ont rien d'exceptionnel, mais ceux-ci sont différents. Au début, je suis déconcerté. En exagérant un peu, je pourrais presque dire que je me sens trahi. Je suis choqué par cette rupture inattendue. Cela me déstabilise, comme si un vent froid venait brusquement souffler par un interstice. Mais à la fin du refrain, la belle mélodie reprend et me ramène à l'intimité du début, loin du vent glacé. La chanson s'achève dans un dernier accord plaqué au piano, tandis que les cordes maintiennent leur paisible harmonie et que s'attarde en écho le son du hautbois. À force de l'écouter en boucle, je commence à comprendre pourquoi cette chanson a ému tant de gens. Simple et douce, elle émane de toute évidence d'un cœur pur. Le terme de « miraculeux » s'applique parfaitement à cette chanson. Une jeune provinciale timide s'assied devant son piano et compose une chanson dédiée à son ami parti au loin et livre sa création sans phare. Elle n'a pas écrit cet air pour le faire écouter aux autres, mais pour apaiser son chagrin. C'est cette innocence qui fait vibrer doucement mais profondément le cœur de tous ceux qui l'écoutent. Je me prépare un dîner très simple, avec ce que je trouve dans le frigo. Puis, je mets une fois de plus Kafka sur la platine. Installé dans le fauteuil, je ferme les yeux et imagine Mademoiselle Saeki assise devant son piano, dans le studio d'enregistrement, chantant sa chanson. Je pense à la tendresse qu'elle éprouve pour son ami, et aussi à la violence absurde et aveugle qui l'a arrachée pour toujours à cet amour. La chanson s'achève, l'aiguille se soulève et retourne automatiquement à sa place. Mademoiselle Saeki a sans doute composé cette chanson dans la pièce où je me trouve en ce moment. Je m'en persuade peu à peu tandis que je continue à écouter inlassablement le disque. Je suis sûr que Kafka sur le rivage est l'adolescent qui figure sur la peinture à l'huile accrochée au mur. Assis devant le bureau, comme Mademoiselle Saeki la nuit dernière, je pose mon menton dans ma main et contemple la toile selon le même angle qu'elle. J'en suis absolument sûr maintenant. C'est ici qu'elle a écrit cette chanson, sans doute à l'heure la plus sombre de la nuit. Je me lève et avance jusqu'au mur pour examiner le tableau de plus près. Les yeux du jeune homme, fixés au loin, ont une profondeur énigmatique. Il regarde un coin du ciel où sont peints quelques nuages aux contours nets. Le plus gros a un peu la forme d'un sphinx couché. Le sphinx. Je fouille dans mes souvenirs. Le jeune Oedipe avait réussi à vaincre le sphinx en trouvant la solution de l'énigme que celui-ci lui proposait. Se sachant vaincu, le monstre s'était jeté du haut d'une falaise. C'est grâce à cet exploit qu'Oedipe est devenu le roi de Thèbes et a épousé la reine qui, en fait, était sa mère. Et ce nom de Kafka? Je devine que Mademoiselle Saeki a fait le lien entre la mystérieuse solitude qui flotte autour du jeune homme du tableau et l'univers des romans de Kafka. Voilà pourquoi elle a appelé le jeune homme de sa chanson « Kafka ». Une âme solitaire errant le long d'un rivage absurde battu par les flots. C'est peut-être la signification de ce nom. Kafka. Il n'y a pas que le nom de Kafka et l'énigme du sphinx qui me font penser à ma propre histoire. Plusieurs couplets de la chanson s'appliquent exactement à ma situation. Les petits poissons qui tombent du ciel, n'est-ce pas exactement ce qui est arrivé quand les maquereaux et les sardines se sont mis à pleuvoir au-dessus des rues commerçantes de Nakano? Et cette phrase « L'ombre du sphinx immobile se transforme en couteau qui transperce les rêves ». On dirait une allusion à la mort de mon père, assassiné à coups de couteau. Je note les paroles de la chanson dans mon carnet, les lis et les relis, soulignant les mots qui retiennent particulièrement mon attention. Mais finalement, tout me paraît très obscur. Je me sens complètement perdu. Debout dans l'ombre de la porte, il y a des mots qui ont perdu leurs lettres. Les doigts de la jeune noyée cherchent la pierre de l'entrée. Derrière la fenêtre, il y a des soldats résolus à mourir. Tout cela a-t-il une signification? Ou bien s'agit-il de simples coïncidences? Je vais jusqu'à la fenêtre et regarde le jardin. La nuit commence doucement à tomber. Je m'installe dans le canapé de la salle de lecture et commence à lire la version moderne du dit du Genji rédigé par Tanizaki. À 10 heures, je me couche, éteins ma lampe de chevet, ferme les yeux. Et j'attends que la jeune Mademoiselle Saeki revienne dans cette pièce.